Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici ensemble pour la suite du texte de Charles Juliette, L'inattendu. Un matin de juin, la sortie de l'école. Le maître l'a retenu quelques minutes et il est maintenant seul sur la route. Il monte la côte qui mène au haut du village. À mi-côte, là où la route fait un léger coude, se trouve une petite place couverte d'herbe. Au centre de cette place, fixée sur un socle de granit, s'élève une haute colonne supportant une statue de la Vierge. Il aime cet endroit, et quatre fois par jour ne manque pas de s'y arrêter un court moment, le temps de réciter un « Je vous salue Marie ». Ce jour-là, visage levé vers la statue, il est sur le point d'achever sa prière, lorsqu'un cri et un bruit de chute le font sursauter. Une faux en travers des jambes, la femme est à terre, inanimée. Il reste figé de stupeur. S'étonne de ce que les roues du vélo continuent de tourner. La vue de ses cuisses toutes blanches l'effraie plus encore que celle du sang qui s'écoule par à-coups et se répand en flaques sur le goudron. La femme geint et il ne sait que faire. Il choisit de s'accroupir auprès d'elle et de lui parler, de la réconforter, de lui apprendre qu'on s'occupe d'elle, qu'elle va être secourue. Mais il se rend compte qu'aucun mot ne parvient à franchir ses lèvres. Il est pris de panique. En détournant la tête, il applique sa main en haut de la cuisse pour arrêter l'hémorragie. Mais si on le surprenait avec sa main posée sur le corps de cette femme qu'il ne connaît pas, que dirait-on de lui? N'irait-on pas s'imaginer qu'il a eu de mauvaises pensées? Il s'enfuit, court chercher du secours. Mais après avoir fait quelques mètres, il revient, tire la robe jusqu'au genou et détale en direction de la place. Rouge, puis brune, puis noire. Large tache est restée visible toute une semaine sur le goudron. Et pour lui, elle ne s'est jamais effacée. À partir de ce jour, il n'a plus fait halte sur la petite place, n'a plus récité son « Je vous salue Marie » en l'honneur de la Vierge. Son cartable serré sous le bras, la tête tournée sur le côté pour ne rien voir, il ne descendait plus, ne montait plus cette côte qu'en courant à perdre haleine, le cœur battant à se rompre. Les quelques rares femmes qui ont assisté à la prière sont rentrées chez elles, et le village est désert. C'est un soir de mai, et la nuit tombe. Il est assis sur les marches de l'église, en proie à une profonde perplexité. Il vient d'apprendre que deux de ses bons copains, qui sont comme lui enfants de cœur, se permettent de manger des hosties et boire du vin consacré. Il est horrifié. Il sait déjà qu'il ne leur adresserait plus la parole, mais quelle décision prendre? S'ils révèlent leur forfait, ils risquent d'être sévèrement punis. Mais s'ils se taisent, le châtiment sera bien pire. Ils iront en enfer, pour l'éternité. Il leur en veut d'avoir commis une faute aussi grave et de lui poser un tel problème. Car s'il ne choisit pas la bonne solution, Dieu, un jour, lui demandera des comptes. Et que pourra-t-il invoquer pour sa défense? comme chaque jour lorsque la lumière décline, il est pris d'angoisse. Et celle-ci rend plus accablant le secret dont il est maintenant dépositaire. Certains n'iront-ils pas jusqu'à prétendre que, puisque ses copains l'ont mis au courant, ils partagent leur faute ? Demain, fort de l'importance dont les circonstances l'ont investi, il leur administrera une bonne raclée et après, il leur demandera d'indiquer eux-mêmes la sanction qu'ils choisissent. D'un pas lent, perdu en lui-même, il regagne la ferme, écrasé par la conscience de leur faute. Le maquignon arrête sa bétaillère. Il laisse l'enfant sur le bord du chemin et le reprendra au même endroit quelques heures plus tard, en fin d'après-midi. L'enfant n'ose aller demander à la première ferme qu'on lui indique celle de sa grand-tante, et il reste là, les bras ballants, la gorge nouée, à attendre que quelque chose survienne qui le tirera d'embarras. Il craint qu'on ne le prenne pour un romanichel, un voleur de poules, et il lui vient l'envie de s'enfuir. C'est une belle journée d'été, mais l'endroit paraît lugubre. Il y a là une dizaine de fermes tassées au fond d'une combe et entourées de quelques prés. Tout autour s'élèvent des montagnes, aux flancs couverts de hêtres et de sapins. Ici, aucune vigne, aucun arbre fruitier. Devant chaque ferme s'étend un petit jardin à la terre noire et soigneusement entretenue. Il n'a jamais vu un paysage aussi sévère et il se demande comment des hommes et des femmes peuvent vivre en un pareil endroit. Le maquignon lui a appris que dans cette région vivent encore des aigles et que parfois il arrive que de petits moutons et de jeunes enfants disparaissent tout en attendant et en se maudissant d'être venus là, ils ne manquent pas de surveiller le ciel. Il a souvent entendu parler de cette tante et on raconte tant de choses sur elle qu'il n'a jamais su s'il fallait croire à ce qui se dit. Elle possède une dizaine de vaches et il paraît que de tout l'hiver, dans ces montagnes la mauvaise saison dure environ 5 mois, elle laisse ses vaches dans leur fumier de sorte qu'à la fin mars, leur dos touche le plafond de l'étable. Il se la présente sous les traits d'une sorcière. Et envisage de renoncer à sa visite, songe à aller se cacher dans le bois proche en attendant le retour du maquignon. Pour se rendre à la cuisine, il trouve étrange d'avoir à traverser une longue grange obscure et lorsqu'il frappe à la porte, souhaitant que personne ne réponde, il est prêt à toutes les surprises. Elle ne ressemble en rien à une sorcière. C'est une femme grande, maigre, habillée de noir, aux cheveux blancs, au regard et à la voix d'une douceur déconcertante. Elle parle avec lenteur. Et pendant les premières minutes, la lourdeur de son accent amuse l'enfant qui s'impose de ne pas sourire. Il est assis bien droit sur sa chaise de paille et il l'écoute. Il n'est même pas étonné de voir les poules entrer dans la cuisine, puis sauter sur la table et picorer les restes du repas. C'est la première fois qu'on le considère comme un adulte, qu'on lui parle comme à un homme, et il écoute de tout son être, avec passion, littéralement projeté hors du temps. Un instant plus tard, il est pris d'inquiétude. Elle explique combien elle aime les bêtes et raconte que de temps à autre, elle voit apparaître avec plaisir dans la cuisine une vipère qui vient boire du lait dans l'assiette des chats. Soudain, le maquignon pousse la porte et l'enfant ne peut croire que l'après-midi est passé. Elle n'a que du café froid à offrir et pour ne pas laisser l'homme boire seul, ils en prennent un troisième verre. En les raccompagnant, la tante le serre contre elle, lui parle avec beaucoup d'affection. Mais lorsqu'elle l'embrasse, il ne sait rien lui dire, part sans pouvoir se retourner. Il baisse la tête, se retient de pleurer, dévoré par le besoin de revenir au plus tôt. La nuit va tomber. Il rassemble ses vaches et les pousse sur la route. Ce pré ne leur offre plus grand-chose à manger et il les laisse brouter l'herbe des talus. Il s'amuse à donner de petits coups de pied dans son bâton qui tressaute sur le goudron. La joie de rentrer a chassé la peur qui l'oppresse en permanence et il adresse quelques mots d'amitié à ses vaches. Une vigne s'étend en contre-haut de la route. En levant la tête, il aperçoit une belle grappe de raisins presque mûrs. Ils seront les premiers qu'il mangera cette année. Il se hisse sur la pointe des pieds et à l'instant où il détache la grappe, une voix hurle « Attends voir, mon galopin, je vais t'apprendre à piller ma vigne !» Il lâche la grappe qui roule à terre et s'écrase sur la route. Il le reconnaît. C'est un vieux grigou qui a la manie de se brouiller avec ceux auxquels il loue des terrains, puis de leur faire des histoires à n'en plus finir. Et quand celle-ci tourne à son désavantage, il n'hésite pas à intenter des procès. Il est surnommé le Gaulois, parce que les extrémités de sa grosse moustache pendent à la verticale au coin de sa bouche. « Je vais t'arranger les côtes !» gueule-t-il furieux et agitant et brandissant sa canne. Le vieux a débouché du bois à une cinquantaine de mètres. Et bien qu'en sabot, il presse le pas et se rapproche. L'enfant se met à frapper ses vaches. Commence alors la course-poursuite. Les vaches n'ont pas mangé tout leur sou et elles savent fort bien que la chienne est absente. Elles en profitent. Elles vont de droite et de gauche, courent dans les champs, cherchent à happer au passage un maïs ou une betterave. L'enfant les injurie à voix basse, frappe les croupes à coups redoublés et à tout instant se retourne à demi pour voir s'il ne risque pas d'être rejoint. Le vieux avance sans à-coups, d'un pas régulier, mais il marche moins vite. Aussi la distance entre eux demeure-t-elle à peu près constante. N'existe plus pour l'enfant que ce martèlement rythmé des sabots aux semelles cloutées, raclant le goudron. Sa panique va croissant. Ce vieux qui continue de l'invectiver est tellement enragé qu'il ne manquera pas de le traîner en justice. Alors il sera frappé d'une lourde amende, sa famille n'aura pas l'argent pour payer et ce sera la honte. Soudain, il prend conscience que lorsqu'elles arriveront devant la cure, les vaches vont s'arrêter à l'abreuvoir et qu'il ne pourra les en faire partir. Le vieux grigou n'aura plus alors qu'à fondre sur sa proie. La charmante doit véler dans un mois et elle peine à suivre le train qu'il leur impose. Tout en la frappant, il lui explique qu'il ne peut agir autrement et que demain, pour se faire pardonner, il ira lui chercher une brassée de luzerne. Essoufflées, les vaches commencent à boire. L'enfant se place derrière l'une d'elles, le plus loin possible du Gaulois qui arrive en traînant la jambe. Cette poursuite n'a pas calmé sa fureur. Au contraire, il vocifère encore, brandit sa canne, mais ne s'arrête pas, il va droit à la ferme. L'enfant se cache à l'écurie où lui parviennent les éclats de voix. Il se promet de ne plus jamais rien chaparder. On l'appelle. Plus mort que vif, les jambes lourdes, redoutant le pire, il entre dans la cuisine. La grappe a été jetée sur la table et elle exhibe aux yeux de tous la preuve de son forfait.
Gasti Belza, l'homme à la carabine, chantait ainsi. Quelqu'un a-t-il connu Donia Sabine, quelqu'un d'ici? Chanter, danser, villageois, la nuit gagne le mont Falou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quelqu'un de vous a-t-il connu Sabine, ma signora? Sa mère était la vieille Mograbine d'Antequera, qui chaque nuit criait dans la tourmagne comme un hibou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Vraiment la reine eut près d'elle était laide quand vers le soir elle passait sur le pont de Tolède en corset noir. Un chapelet du temps de Charlemagne ornait son cou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Le roi disait, en la voyant si belle, à son neveu, pour un baiser, pour un sourire d'elle, pour un cheveu, un fendon rouille, je donnerai l'Espagne et le Pérou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Je ne sais pas si j'aimais cette dame, mais je sais bien que pour avoir un regard de son âme, moi pauvre chien, j'aurais gaiement passé 10 ans au bagne sous les verrous. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quand je voyais cet enfant, moi le pâtre de ce canton, je croyais voir la belle Cléopâtre qui, nous dit-on, menait César, empereur d'Allemagne, par le licou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Danser, chanter, villageois, la nuit tombe. Sabine, un jour, a tout vendu, sa beauté de colombe, tout son amour, pour l'anneau d'or du comte de Saldagne, pour un bijou. Le vent qui vient à travers la montagne m'a rendu fou.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Nous revenons pour la dernière lecture de L'inattendu de Charles Juliette. Le blessé de la Grande Guerre a versé son sang pour défendre la patrie, et l'enfant, bien qu'impressionné par ses mains artificielles gantées de noir, n'hésite pas à le saluer et à lui rendre éventuellement service. Une fois, il a ramassé le pain que le vieux monsieur avait laissé échapper. Une autre fois, il lui a porté sa musette. Une autre fois encore, il lui a lacé sa chaussure. Un jour, l'enfant apprend que le héros a reçu naguère plusieurs décorations. Et le sentiment de respect et d'admiration qu'il lui porte s'en trouve accru. Ce même jour, on a confié à l'enfant que ce grand blessé demande parfois à un passant de l'accompagner derrière un arbre pour l'aider à satisfaire un humble besoin. Or, peu de temps après, le nouveau maire a fait construire une pissotière dans le centre du village. À partir de ce jour, de peur de rencontrer le vieux monsieur dans ses parages, l'enfant ne parcourt plus cette portion de rue qu'en courant à perdre haleine. Cette voisine est âgée. De temps à autre, quand elle monte au cimetière, elle vient chercher l'enfant. Il lui porte dans un bidon l'eau dont elle a besoin pour arroser les fleurs qu'elle aime à disposer sur ses tombes. Le cimetière occupe un replat sur la colline et il domine le village. Pour s'y rendre, il faut emprunter un chemin au-dessus duquel l'épaisse frondaison de châtaigniers tricentenaires forme une voûte compacte. Sous cette voûte, l'enfant a peur. D'autant que des châtaigniers ont été frappés par la foudre et qu'à certains endroits, en contre-haut du chemin, des moignons de branches, des troncs noircis et éventrés, découpent la forme déchiquetée sur le ciel. Lors des enterrements, quand il est près de monsieur le curé et des autres enfants de cœur, l'enfant n'appréhende pas de pénétrer dans cette pénombre. Mais en compagnie de cette vieille percluse de rhumatisme, il n'en va pas de même. S'ils étaient attaqués, elle ne lui serait d'aucun secours, et ce n'est jamais sans maugréer à l'intérieur de lui-même qu'il l'accompagne. À ses côtés, l'enfant s'ennuie. Elle marche lentement, s'arrête tous les 100 pas, et il ne peut plus lui parler car elle est sourde. En cet après-midi d'un dimanche d'été, avant qu'il ne parte derrière ses vaches, il lui faut monter une nouvelle fois jusqu'au cimetière, et il est mécontent de se voir privé des 2 heures dont il aurait pu profiter pour aller traîner sur la place du village. Lorsqu'il est de retour face à la mère qui l'interroge du regard, il déclare que lorsque cette vieille sera morte, il n'ira pas l'arroser. Il a des raisons toutes particulières de ne pas aimer l'hiver, cette saison où les jours sont trop courts, où la nuit tombe trop tôt. Chaque soir, quand on a achevé de traire les vaches, il doit porter un bidon de lait à une vieille dame qui habite une maison à l'écart du village. Il redoute tant de voir arriver cet instant qu'il ne cesse d'y penser durant le jour. Il enfile une veste sur sa blouse noire et d'une main résolue plaque et maintient le bidon sur sa poitrine. Une fois la porte franchie, il s'enfonce non pas dans la nuit, mais dans quelque chose d'humide, de gluant, où traînent des mains prêtes à se saisir de lui et l'étrangler. La nuit, il a des cauchemars. Il est un enfant volé qu'on maltraite, qu'on abandonne dans une forêt, qu'on assassine. En courant aussi vite qu'il peut, il emprunte d'abord la rue du village, déserte et pauvrement éclairée. Puis il la quitte pour prendre un petit chemin où règne une nuit totale. Il accélère l'allure, son cœur lui bat dans la gorge, et c'est là que l'attendent les bohémiens qui ont peuplé ses derniers cauchemars. Parfois, alors qu'il est son sur le point de se saisir de lui, il doit se retenir de ne pas crier. Chez la vieille dame, il est trop essoufflé pour prononcer un mot. Il pose en hâte le bidon sur la table de cuisine et repart sur le champ. S'il s'attardait, il n'aurait plus le courage d'affronter à nouveau la nuit. Quand il arrive chez lui à la ferme, il reste dehors, accroupi sur une marche, le temps de retrouver son souffle, d'avoir moins mal aux jambes et à la poitrine. Si on découvrait à quel point il est dévoré par la peur, sans doute ne l'enverrait-on plus porter ce malheureux bidon. Sa mère devrait alors se charger de cette corvée, ou bien encore on dirait à la vieille dame qu'il n'est pas possible de lui fournir du lait. Il ne veut surtout pas qu'on prenne une telle décision. Et pour cette raison, il tient à ce qu'on ne s'aperçoive de rien lorsqu'il rentre. Mais l'instant le plus pénible de la soirée est encore à venir. Tous réunis autour de la longue table, ils sont en train de souper. Une fois, deux fois, trois fois, on lui a commandé d'aller chercher du vin à la cave, et il n'a toujours pas bougé. À la fin, le père élève la voix. Sans manifester beaucoup d'entrain, l'enfant finit par se saisir de la bouteille. En traînant les pieds, il va à la porte, l'ouvre lentement, la ferme lentement et reste quelques secondes sur le perron. Il fait nuit noire. Soudain, il bondit, traverse la cour en quelques enjambées bien réglées, saute quatre marches, manœuvre la clé, pousse la porte d'un coup d'épaule, appuie sur le bouton électrique, dévale les escaliers 4 à 4, court jusqu'au tonneau, tourne le robinet, attend que la bouteille se remplisse. La lumière n'éclaire que la partie centrale devant les tonneaux, et l'espace restant est noyé dans la pénombre. De plus, la cave se prolonge par un passage qui communique avec une autre cave. C'est de cet endroit que l'homme risque de sortir pour venir à pas de loup le bâillonner et l'emporter. Calé contre le tonneau, maudissant le robinet de ne laisser couler qu'un mince filet de vin, il fixe l'antre noir d'un œil terrifié. Mais en fait, le danger peut surgir de partout. Aussi, à tout instant, il jette un bref regard à droite et à gauche derrière lui pour ne pas risquer de se faire surprendre, car être surpris serait pire que devoir approcher l'homme et de se préparer à l'attaque. La bouteille enfin pleine, il s'enfuit. Chaque enjambée, chaque geste, l'instant où il doit passer la bouteille de sa main droite dans sa main gauche, la manière dont il doit tirer la porte, tourner la clé, sauter les dernières marches, tout a été minutieusement mis au point en vue de réduire au maximum le temps nécessaire à effectuer les deux trajets. Il pose la bouteille sur la table. Et pour ne pas qu'on voie l'état dans lequel il se trouve, il va s'asseoir un moment près de la cheminée. Si on lui demande ce qu'il fait là au lieu d'être à table auprès d'eux, il répond qu'il a eu froid et qu'il a besoin de se réchauffer un moment. Parfois, pour labourer ou sortir leur bois de la forêt, le voisin, qui est l'homme le plus brave qui soit, leur prête sa paire de bœufs. Et en retour, il lui donne un bon coup de main lorsqu'il a besoin d'eux. Ce jour-là, le voisin et sa sœur sont venus prendre l'enfant et ils sont partis chercher du foin. Lorsque l'enfant voit la vipère se glisser sous le tas de foin qui va être chargé, il prévient l'homme aussitôt. Mais celui-ci ne s'émeut pas pour si peu. L'orage menace et le temps presse. Il pique sa fourche à quelques reprises dans le tas de foin, puis continue de charger. Sur le char, sa sœur se saisit à plein bras de la fourchée qui a été jetée devant elle, en fait un rouleau et le tasse contre le précédent. Il fait très chaud. Pour les protéger des mouches et des temps, on a badigeonné les bœufs à l'aide d'un liquide noir et qui sent fort. Mais ils n'en sont pas moins assaillis. Ils soufflent, agitent leur tête de bas en haut, se donnent des coups de pied et des coups de queue. Sur le chemin du retour, alors qu'ils avancent avec leur habituelle lenteur, l'homme qui surveille le ciel ne cesse de jurer et de les aiguillonner. Les hommes manœuvrent le char pour le mettre en place et il faut aussitôt le décharger. L'enfant est requis pour tasser le foin dans la grange. À l'intérieur de celle-ci, sous les tuiles, règne l'obscurité et une chaleur étouffante. Les fourchées de foin arrivent à une cadence régulière. Et l'enfant, qui a le désir de donner pleine satisfaction à son voisin et grand ami, s'active avec énergie. Parfois, il glisse, s'enfonce dans un trou, reçoit un paquet de foin sur la tête ou se retrouve avec une épaisse toile d'araignée sur le visage. La sueur lui coule dans les yeux. Et à cause de la poussière, il a du mal à respirer. Une ou deux fois, pour reprendre haleine, il s'approche de la fenêtre, mais le voisin le traite de petit fainéant. Il ne sait s'il parle sérieusement. Et en haletant, il repart de plus belle, marche d'un mur à l'autre aussi vite qu'il peut, s'empare avec vigueur des fourchées qu'il lui faut déplacer. Et si la vipère le mord, aura-t-il le temps de revoir sa mère? Il tousse. Ses yeux larmoient, il a perdu ses espadrilles et bientôt son imagination s'enfièvre. Le foin le griffe, couvre ses bras, ses jambes et ses pieds nus de multiples piqûres. Il ne pourra jamais sentir si la vipère lui injecte son venin. Pris de panique, le visage en feu, et comme s'il lui était possible de fuir la mort qui peut le frapper d'une seconde à l'autre, il accélère l'allure. Puis, glissant et tombant, de plus en plus affolé, de plus en plus certain qu'il ne sortira pas vivant de cette maudite grange, il se met à courir. Voilà, donc nous avons terminé pour cette semaine ces extraits du récit de Charles-Juliette, L'Inattendu. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une autre lecture. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.